Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce mardi soir 15 juin 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Un système basé sur l'agression, l'occupation ne durera pas longtemps, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères, réagissant au départ du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La marine iranienne a reçu deux nouveaux navires de guerre. L'armée yéménite a visé de l'aéroport de Dabha au sud de l'Arabie saoudite. L'Irak et la Russie se prononcent pour le développement de la coopération bilatérale. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. En réaction à la défaite de Netanyahou aux élections israéliennes, le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'un système basé sur l'agression et l'occupation ne durera pas longtemps. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré dans un message sur Twitter « Après une longue guerre, une agression contre les Palestiniens et menaçant la République islamique d'Iran, c'est maintenant le tyran de Benjamin Netanyahou qui a échoué et c'est Gaza qui a hissé le drapeau de la victoire et l'Iran poursuivra le chemin de la dignité », a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Peut-être que ceux qui le remplaceront comprendront qu'un système basé sur l'agression et l'occupation ne durera pas longtemps, a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères. La marine de la République islamique d'Iran a pris livraison de deux navires de guerre lors d'une cérémonie retransmise en direct par la télévision d'État quelques jours après l'annonce de l'entrée d'une escadre iranienne dans l'océan Atlantique, présentée comme une première. Le ministère de la Défense a achevé un travail majeur aujourd'hui en fournissant deux navires à l'armée de la République islamique d'Iran, le destroyer d'Ena et un chasseur de mines, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Selon un communiqué de l'état-major de l'armée, le Dena est un destroyer entièrement iranien équipé d'une zone d'atterrissage pour les hélicoptères, d'une variété d'équipements et de systèmes de défense et d'attaque ayant la capacité de parcourir de longues distances et équipé pour détruire toute menace aérienne, de surface ou sous-marine. Baptisé Shahin, le chasseur de mines, est d'une longueur de 32 mètres et il est capable de détecter et neutraliser divers types de mines marines, a précisé le communiqué. La livraison de deux bâtiments intervient après que l'armée iranienne a annoncé jeudi l'entrée pour la première fois d'une escadre iranienne dans le sang atlantique dans le but de renforcer ses capacités maritimes. Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sari, a déclaré qu'une attaque avait été menée contre l'aéroport d'Abha dans le sud de l'Arabie saoudite à l'aide du drone de Kassef-K2. Les frappes de drones ont eu lieu au cours desquelles une importante base militaire a été prise pour cible, a-t-il souligné. Yahya Sari a souligné que le drone a touché de sa cible avec précision et que l'attaque constitue une riposte légitime et légale à l'intensification des agressions de Riyad et au siège continu du Yémen. Situé à côté de la base aérienne du roi Khaled Al-Khamis Mouchat, l'aéroport d'Abha est l'un des aéroports depuis lesquels un grand nombre de frappes aériennes de la coalition d'agression saoudienne contre le Yémen sont menées. Le ministre irakien de la Défense, Jumat Inat Sadoun, s'est entretenu avec l'ambassadeur de Russie à Bagdad, Elbrouz de Kutrachov, au sujet des relations entre les deux pays dans divers domaines, notamment militaires. Selon le communiqué du ministère irakien de la Défense, Sadoun a reçu dans son bureau l'ambassadeur de Russie ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Les deux parties ont discuté des moyens de développer les relations irako-russes que le ministre irakien a décrites comme un lien solide. Pour sa part, l'ambassadeur de Russie a réitéré le soutien de Moscou au gouvernement irakien dans sa lutte contre le terrorisme. Nouvellement nommé, l'ambassadeur russe a également rencontré il y a quelques jours le premier ministre irakien. Les deux parties avaient souligné l'importance de renforcer les relations entre les deux pays, en plus de discuter des préparatifs en cours pour la convocation du comité ministériel conjoint russo-irakien à Moscou avec pour objectif de développer les coopérations à différents niveaux. Des experts africains appellent à des financements innovants pour stimuler la transition écologique. Les pays d'Afrique subsaharienne doivent réfléchir à des modèles de financement innovants afin de mieux promouvoir la résilience des communautés et de leur habitat naturel face au changement climatique, ont déclaré des experts à l'approche de la semaine africaine du climat qui s'ouvre de ce mardi. Des experts en climatologie et des décideurs politiques se sont exprimés au cours d'un forum virtuel organisé par Brookings Institution, un groupe de réflexion basé aux États-Unis et par l'Université des Nations Unies. Ils ont déclaré que les aspirations écologiques de l'Afrique pouvaient se réaliser à condition de bénéficier de financements solides, de réglementations favorables et de transferts de technologies nécessaires. Fatima Danton, directrice de l'Institut des ressources naturelles d'Afrique, une institution basée au Ghana et rattachée à l'Université des Nations Unies, a déclaré que le continent avait besoin d'investissements intelligents et de nouvelles politiques pour faciliter et accélérer une relance verte. Côte d'Ivoire, 3 soldats tués et 4 autres blessés dans une attaque contre une patrouille militaire dans le nord-est du pays. Une patrouille militaire de l'armée ivoirienne a été attaquée dans le nord-est du pays, faisant 2-3 morts et 4 blessés parmi les soldats, a annoncé l'état-major général des armées dans un communiqué. En fait, une patrouille de reconnaissance des forces armées de Côte d'Ivoire a été l'objet d'une attaque complexe sur l'axe de Steini, Togolok Kai, localité frontalière du Burkina Faso. Il s'agit d'une embuscade avec usage d'engins explosifs improvisés au contact duquel un des véhicules a sauté, indiqué le communiqué signé du chef d'état-major général des armées, le général Lassina Doumbia. La riposte du détachement a permis de sécuriser la zone et de porter secours aux blessés, a assuré le patron de l'armée, faisant état d'un bilan de 3 soldats tués et 4 autres blessés. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Restez avec nous, nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La défense iranienne dévoile sa nouvelle stratégie navale, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le plus nouveau destroyer iranien, Dinar, a rejoint la flotte de la marine de la République islamique d'Iran avec 74 pour numéro 2 de coque. Le destroyer Dinar constitue le 4e destroyer de la classe Mouj qui va être en service. Les autres destroyers de classe Mouj qui ont précédemment été construits dans le pays sont Jamoran, Damavand et de Sahand. À cette occasion, l'agence de presse Tasnim s'est attardée dans un rapport sur les caractéristiques des équipements installés sur le destroyer Dinar. Les radars bande Est et bande X, le radar 3D de surveillance aérienne, le site de traitement radar, l'aide de sonar sous de surface et d'éco-sondage. Les systèmes de télécommunication de surface et de sous-surface, le réseau électronique intégré, les systèmes de navigation, la boussole et le système de sondeur à balayage magnétique, le système de détection d'incendie, le système électro-optique au stabilisateur et au synchroniseur, le système d'alerte et de lutte contre les attaques radiologiques, biologiques et chimiques, le système de climatisation, les douches anti-pollution, les systèmes d'adoucissement de l'eau et de traitement de l'air compact. Et les systèmes de guerre électronique et de traitement de données électroniques, les systèmes de paillettes armées de FLIR maritimes. Le destroyer Dena est en fait l'un des nouveaux acquis qui s'inscrit dans le cadre des plans nationaux du ministère iranien de la Défense, faisant l'objet d'une cérémonie de mise en service organisée ce lundi 14 juin par visioconférence à laquelle a participé le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami. Plus de 2500 km de frontières maritimes, surtout au sud du pays, offrent une énorme potentialité de développement maritime dans divers domaines économiques et culturels. En particulier, ces longues frontières maritimes sont aussi et surtout un facteur essentiel de profondeur stratégique du pays qui nous assure une capacité de défense stratégique, a affirmé lors de cette cérémonie le ministre iranien de la Défense. Pour y parvenir, nous aurons besoin d'aides politiques convenables et d'une puissance maritime croissante, ce qui exige une industrie maritime de dernier cri et un grand effort pour assurer la sécurité des itinéraires maritimes du pays et dans toute son entièreté, a souligné le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, discours prononcé hier. Dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah a souligné ce qui se passe en Palestine occupée, à Quds et à Al-Aqsa prouve que nous nous sommes confrontés à un ennemi d'idiot et de rancunier qui, empêtré dans la crise, pourrait fuir en avant. Netanyahou est aujourd'hui défait et qui patuge dans la crise pourrait recourir à des options hâtives pour en sortir, a souligné le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah a également souligné que l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique d'Iran, que sa demeure soit au paradis, avait revivifié l'esprit de la révolution contre la tyrannie et l'esprit de la résistance contre les belligérants. Et Seyyed Hassan Nasrallah de préciser encore, les Palestiniens, quels que soient à Gaza, à Quds, en Cisjordanie et dans les territoires occupés de 1948, sont déterminés à défendre Quds et les valeurs sacrées. Il faut que l'Oumma les soutienne. Nous devrions faire remarquer de Seyyed Hassan Nasrallah de faire de sorte que toute agression contre Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. On va vous en parler avec deux invités dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas, capitale syrienne, un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnon Develet. Maître Develet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Develet, c'est une analyste franco-syrienne, spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Paris. Il s'agit de Madame Aïssar Midani. Madame Midani, bonjour. Merci beaucoup d'avoir bonjour. Accepté notre invitation.
Bonjour, merci.
Madame Midani, on va commencer avec vous, l'émission d'aujourd'hui. Je viens de lancer le sujet. Quelle est, d'après vous, l'importance de ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, qui a évoqué également la crise du Yémen, qui a évoqué également la crise que traverse actuellement le Liban, et tout en soulignant que le Liban peut solliciter l'aide de l'Iran pour, en fait, de sortir de cette crise. Votre lecture, votre analyse, s'il vous plaît.
De grandes victoires qui ont été réalisées en Palestine, au Yémen et en Syrie. Et puis en même temps, il y a une grande crise au Liban. Il a retracé, en fait, l'historique des victoires de la résistance, en fait, et puis l'historique aussi de sa création, je dirais. Donc, c'est très important, en fait, de souligner effectivement toutes les victoires, surtout pour ceux qui sont en train de dénigrer et de renier toutes ces victoires et de dire que c'est...
Madame Midanit, nous avons fait une mauvaise liaison avec Paris. Nous allons partir tout de suite, le monde de la technologie nous le permet, nous allons partir tout de suite à Damas pour rejoindre Maître Arnon Develet. Mes amis à la régie vont revenir vers Aïssar Midani pour établir ce contact et cette liaison. Maître Develet, je vous pose en fait la même question. Quelle analyse portez-vous sur ce discours de Seyyed Hassan Nasrallah, s'il vous plaît?
Comme première impression, déjà, d'un discours qui portait à rassurer les habitants, rassurer les gens, non seulement quand on était absenté, vous savez, beaucoup de rumeurs ont circulé ces dernières semaines, certainement amplifiées, peuvent porter par certaines parties qui avaient intérêt justement à laisser un peu les doutes, et qui l'a appelé à rassurer en primaire que sa santé était au fixe. et que toutes les formes d'analyse d'experts porteraient à essayer de déterminer de quoi le salier de souffrirait sont des préventifs. Rassurant aussi, il y a un pont qui, dans sa maestria habituelle, a fait la télévision régionale, en soulignant bien sûr la situation donc, dans la péninsule arabique au sens large et la victoire économique contre l'agression de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, en mettant le poids aussi en insistant sur le fait que lorsque les opérations militaires ne vont pas dans le sens des investisseurs, malheureusement, c'est la population qui est guidée et que dans ce contexte particulier, les offres de paix ou les approches en fait empruntent des critiques puisqu'elles n'utilisent pas justement à alléger les bus qui empêchent les codes économiques de manger à sa faim. Il a aussi évoqué la situation en Syrie en parlant bien, en soulignant bien justement cette opération dite de FITNA, parce que c'est ce qui caractérise la situation syrienne dans sa genèse, et jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, en soulignant que les portes légitimes avaient repris la main sur la situation. Et il a bien sûr évoqué la situation au Liban en mettant, j'allais dire, sous notice ses alliés de la coalition, que s'il ne prenait pas la responsabilité en formant un gouvernement, il prendrait acte de la situation et prendrait les mesures nécessaires pour éviter justement que le peuple libanais soit lui-même l'objet de. C'est un siège alimentaire et économique tel que le pays ne s'en rendait pas compte. Il a mis en garde, il a été très clair sur ça. Et point très important, il a dit essentiellement, mais il n'est pas peur de terminer. On dirait que vous êtes probablement en parlant de ces années aussi, vous semblez avoir une peur non fondée des États-Unis et ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous mettons sous la partie. Si vous ne prenez pas les décisions législatives qui permettent d'entériner les mesures que nous avons commencé à prendre, nous prendrons les mesures qui s'imposent parce que bah, nous sommes un parti qui est responsable, un parti qui a cette responsabilité et ce que nous ne pouvons pas, que la situation se détériorer sans rien faire. C'est une façon un peu de rassurer l'horizon, de rassurer les gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inférences quant à l'avenir en ce moment et la voix de Saïd Nasrallah dans ce contexte est toujours des plus rassurantes.
Notre liaison, merci beaucoup, notre liaison, fort heureusement, avec Paris, et plus précisément avec Mme Aïssa Midani a été rétablie. Mme Midani, rebonjour.
Rebonjour, rebonjour à vous.
Mme Midani, est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends bien, oui. Et vous m'entendez bien?
Madame Midani, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Bon, notre liaison a été mauvaise. Là, notre liaison est très bonne. Madame Midani, vous étiez en train de faire votre analyse de ce discours de Saïd Hassan Nasrallah. Je vous en prie, la parole est à vous.
Ok, alors effectivement, je disais que c'était important de rappeler l'ensemble des victoires depuis la création de la résistance qui a été donc dans les années 80-82 qui a été créée. Et l'ensemble des victoires qui se sont soldées par la libération du Liban en 2000, du Sud-Liban en 2000, puis la victoire en 2006, et puis l'ensemble des victoires aussi bien de la résistance libanaise, mais aussi de la résistance palestinienne, de la construction de ponts entre la résistance libanaise et la résistance syrienne avec le peuple syrien, le peuple palestinien et le peuple yéménite. En fait, toutes ces victoires et toutes ces synergies au niveau de la résistance étaient aussi animées et construites par la radio-télévision Al-Manar, qui est une comment qui est une télévision et radio engagée pour la résistance et qui ne cherche pas du tout le profit, mais qui cherche plutôt à construire effectivement cet esprit de résistance et de principe et en fait et de vérité. Donc, il était important aussi, ce qu'il a souligné, et c'était très très important, c'est que de toute façon, il y avait aussi, on a affaire à des ennemis qui sèment toujours le doute et qui sèment la discorde, qui cherchent toujours à créer diversion, et nous sommes, en fait, naïfs. À surmonter la diversion et on arrive par la prise de conscience de nos intérêts communs face à cet ennemi sioniste hein, qui est là et qui est idiot et qui est aussi peut aller très loin en période d'aventure. Donc c'était important de mettre le holà et les lignes rouges à cet ennemi. Et puis, aujourd'hui, il est important aussi d'être prêt, toujours, pour les batailles à venir. Mais aussi, donc, il a souligné les dernières victoires de la résistance palestinienne, de la résistance libanaise, mais aussi de la Syrie, du peuple syrien et de sa résistance aussi. Donc, cette coopération au niveau des résistances qui a changé la donne, je dirais, au niveau de la région, mais aussi il est important, donc il est revenu à la fin sur la crise libanaise où il affirme qu'il n'y a pas de fatalité, que de toute façon les solutions sont là, on peut toujours avoir des solutions, nos ennemis cherchent à nous faire mourir de faim et à chercher à nous mettre à genoux. Nous n'accepterons pas ça, nous ne le ferons pas. Nous avons des solutions, nous avons des amis très proches, stratégiques comme l'Iran, qui pourraient, à la suite d'une décision importante, courageuse, une décision politique libanaise qui pourrait être prise par des responsables politiques libanais. Elle pourrait nous fournir l'essence, le fuel, etc., qu'il nous faut. Donc, en fait, il ne faut pas accepter cet état, il ne faut pas accepter ces solutions que l'Occident veut nous imposer, qui sont des solutions qui nous mettent à genoux et qui nous mettent à leur merci, parce qu'il y a d'autres solutions où nous pouvons être toujours souverains et respectés. Donc ça, c'est un point, je pense que ce sont des différents points très importants. Il a souligné l'importance aussi de l'alliance stratégique entre toutes les... Mais pas seulement dans l'acte de la résistance, mais aussi que de toute façon, la Jérusalem est... Jérusalem, c'est quand même le centre de la religion musulmane et de la religion chrétienne, et il est important de défendre Jérusalem, que la défense soit prise en compte par l'ensemble des peuples musulmans et des peuples chrétiens face à cette offensive, et qu'aujourd'hui il faudra qu'on mette il faut quand même que l'ennemi comprenne que l'agression contre Jérusalem, ça veut dire aussi une guerre très importante régionale et qui le mettra en danger. Ça, ce sont les points clés, je dirais. Et il est important aussi de reconnaître que ce sont les Palestiniens aujourd'hui, les Palestiniens de Palestine occupés en 48, les Palestiniens de la Cisjordanie, les Palestiniens de Gaza, ils ont défendu, et de Jérusalem, ont jusqu'à présent défendu et défendent toujours Jérusalem. mais il faudra aussi les soutenir et s'engager dans ce combat de défense de Jérusalem qui est le nôtre.
Merci beaucoup. Maître Develé, Madame Idani vient de faire allusion en fait à ce point qui a été évoqué par le secrétaire général du Hezbollah libanais qui a en fait souligné que la défense d'Al-Quds c'est la première des priorités. Et il a, Madame Midani également vient de l'évoquer tout à l'heure, a dit que voilà, nous devons agir de sorte que toute agression contre Al-Quds signifie le déclenchement d'une guerre régionale. Maître Develé, là, cet Hassan Nasrallah semble avoir lancé une sévère mise en garde au régime israélien, comme quoi s'il y a une agression contre Al-Quds, ça entraînera une guerre régionale, c'est-à-dire l'ensemble des éléments et des composantes de l'axe de la résistance réagira.
Oui, tout à fait. De toute façon, Saïd Nasrallah a toujours été cohérent dans ses positionnements stratégiques et il tient le discours de quelqu'un. Il a confiance en ses forces, en sa capacité à infliger des coups de terrible à l'ennemi. Et ce faisant, il tient à lancer un message plus ou moins voilé aux autorités chiites, que ceci soit à l'avenir représenté par la coalition avec la facette nord-capitaliste, ou bien en faveur de. Une cuisine interne israélienne, un retour aux affaires de Netanyahou, ça n'a aucune importance de toute façon. Par contre, ce qui se dit, c'est qu'on a en Netanyahou quelqu'un d'extrêmement impulsif, revanchard, on va dire amer et un cynisme à toute épreuve. Donc, comme il a compris à qui il avait affaire, il met en garde quelque part le Netanyahou ou les autorités chiites de manière générale contre toute tentation de créer une situation à quatre pays qui, comme il l'a souligné, effectivement, en prendra une réponse à l'échelle régionale. Ça, il n'y a aucun doute sur le sujet. Et c'est aussi une manière d'envoyer un message que malgré les difficultés que traverse le Liban actuellement, n'allez pas imaginer que les capacités et la vigilance de l'Ebola s'en trouvent inversement affectées. Et que les choses soient bien claires. Donc, c'était important de le souligner. Il l'a souligné dans son discours. Et à partir de là, que les choses soient claires, non seulement nous sommes prêts à toute éventualité, et d'ailleurs, les provocations ces derniers jours, on les souligne, hein, on a eu. C'était pas quelque chose d'assez grotesque, d'assez pittoresque, avec l'armée sioniste qui a déployé des blindés pour l'histoire de familles à la frontière, sans succès d'ailleurs. Et puis ce matin encore, des fusées imminentes en plein jour. Donc voilà, c'était un petit peu le genre de comportement irrationnel auquel nous sommes confrontés, enfin, auquel nous sommes témoins. Mais bon, il faut raison de garder. De toute façon, les sionistes ont été rappelés à l'ordre, si je puis dire, au travers des 11 jours d'opération de la route. Que le paradigme a changé, les forces en présence ont complètement mis à jour leur synergie et leur. Capacité politique à constater un petit attachement sioniste. Et qu'à partir de là, le discours est cohérent, il est limpide, il est clair et il est plus consistant.
Madame Midani, s'agissant en fait du Yémen, c'est Hassan Nasrallah qualifié en fait de trompeur le geste de médiateur que s'offrent les États-Unis envers la crise du Yémen.
En fait, s'agissant de ce point, il a précisé, tout cela est pour induire tout le monde en erreur, car les États-Unis veulent mettre un terme à la guerre tout en maintenant le blocus. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Midani?
Exactement, c'est tout à fait parce que les États-Unis, comme l'Arabie Saoudite, n'arrêtent pas de proposer soi-disant des cessez-le-feu, mais en fait, d'abord, les Saoudiens ne cessent pas du tout, ils continuent à bombarder et à bombarder les civils et à bombarder l'ensemble des installations au niveau du Yémen. D'un autre côté, on voit que l'embargo continue, il y a même des navires avec des produits pétroliers qui sont dans le port, pas loin du port de Hodeïda, que nous interdisent aussi de les décharger au Yémen. C'est effectivement, donc ils veulent continuer, ils veulent que les Yéménites arrêtent les combats, alors que les Saoudiens continuent à bombarder, et ils veulent aussi, il n'est pas question de lever l'embargo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va imposer des conditions à un peuple qu'on affame, qu'on affaiblit, qu'on essaye d'affaiblir aussi au niveau de la santé en temps d'épidémie, et qu'on veut faire effectivement négocier, voire en fait faire du chantage à ce peuple et aux révolutionnaires yéménites, leur faire du chantage avec une sorte de goutte à goutte alimentaire, hein, et chaque goutte serait l'objet d'un chantage et puis les faire céder. Donc c'est ce que Samahat Cheikh Nasrallah a dit, que c'est un véritable mensonge, que les États-Unis mentent et ils font miroiter des choses alors qu'ils ne les appliquent pas. Et ce sont en fait il faut prendre conscience que ce sont des vrais menteurs qui veulent avoir le tout pour rien, et qui font justement qui n'arrêtent pas de dire qu'ils veulent la paix, alors que c'est un discours trompeur, je dirais.
Merci.
Comme la majorité des discours en fait des États-Unis et puis de leurs alliés dans les guerres, pas seulement dans cette guerre à vrai dire, parce que nous en Syrie on en a aussi une véritable expérience de ce qu'ils racontent, des mensonges.
Merci beaucoup.
Qu'ils publient aussi, et la réalité de leurs actions.
Merci infiniment, Madame Aïssar Midani, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris. Mes vifs remerciements vont également à Maître Arnaud de Volet, qui a été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis. À très bientôt.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature.
Ici, le Moyen-Orient. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. La marine iranienne a dévoilé son nouveau destroyer Dena. Les forces armées de la République islamique d'Iran n'ont jamais suivi une politique agressive et nous déclarons explicitement à nos chers voisins que le pouvoir de nos forces armées vous protège également et n'est pas contre vous, a déclaré le président Rouhani. Le président iranien a déclaré lors de la cérémonie virtuelle d'inauguration des plans nationaux du ministère iranien de la Défense, y compris la livraison du destroyer Dena à l'armée de mer. L'industrie de défense du pays, en profitant du savoir-faire des experts locaux, ont réalisé un destroyer très important et aujourd'hui ce destroyer est prêt à accomplir toutes sortes de missions. La marine iranienne a toujours été une force puissante depuis le début de la révolution jusqu'aujourd'hui. Les gens se souviennent que dans les premiers mois de la guerre imposée, la marine iranienne a complètement détruit la marine irakienne et après 2 ou 3 mois, nous n'avons pas vu de navires irakiens flotter dans le golfe Persique et la marine irakienne a été détruite par l'armée de la République islamique d'Iran, a précisé le président Rouhani. Lors de cette cérémonie tenue à Bandar Abbas, en présence du ministre iranien de la Défense, du commandant de l'armée de mer et du chef de l'organisation de l'industrie maritime, la marine iranienne a inauguré 2 navires de fabrication iranienne, le destroyer Dena et le chasseur de mines Shahin. Le destroyer de Dena est un porte-hélicoptère équipé de plusieurs systèmes défensifs et offensifs de fabrication nationale et en plus d'une capacité de navigation dans les mers lointaines et les zones océaniques. Les États-Unis doivent d'abord lever les sanctions imposées à l'Iran avant de rejoindre le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire de 2015, selon Pékin. Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis devraient d'abord lever toutes les sanctions qu'ils ont imposées à l'Iran afin de revenir à l'accord nucléaire de 2015. Wang Yi a fait ses remarques alors que des négociations sont en cours à Vienne pour revitaliser éventuellement l'accord qui a été abandonné par l'administration de Trump en mai 2018. Pour revenir à l'accord, lever d'abord les sanctions contre l'Iran est la chose naturelle à faire, a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères dans un discours à la conférence du désarmement à Genève. Le ministre chinois des Affaires étrangères, dont le pays est parti à l'accord, a ajouté, alors que les négociations pour que les États-Unis et l'Iran reprennent le respect de l'accord sont maintenant dans le sprint de finale, les parties concernées doivent de prendre une décision politique le plus rapidement possible et redoubler d'efforts diplomatiques pour remettre le plan global d'action conjoint sur les rails. Wang Yi a une fois de plus réitéré la position de la Chine selon laquelle le plan global d'action conjoint d'accord sur le nucléaire de 2015 a été approuvé par la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU et est un résultat important de la diplomatie multilatérale et un pilier clé du régime international de non-prolifération nucléaire et de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient. Les factions de la résistance palestinienne de Cisjordanie et de Gaza ont affirmé qu'elles ne voyaient que peu de différence entre le gouvernement sortant de Benjamin Netanyahou et le nouveau gouvernement du changement dirigé par Naftali Bennett. Le Hamas, mouvement de la résistance islamique de Palestine, a indiqué que le départ de Benjamin Netanyahou ne mettra pas fin à ses tentatives de détruire l'entité sioniste. Quelle que soit la forme du gouvernement israélien, cela ne changera pas la nature de nos relations avec Israël. C'est une entité d'occupation qui doit faire l'objet d'une résistance et à laquelle nous devons arracher nos droits par toutes les formes de résistance, au premier rang desquelles la lutte armée, a déclaré le porte-parole du Hamas, Fawzi Barhoum. À Ramallah, le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne a déclaré dans un communiqué qu'il s'attendait à peu de changements dans la politique israélienne envers les Palestiniens. Un gouvernement sans Netanyahou a été formé en Israël. Cependant, il est inexact de le qualifier de gouvernement de changement, à moins de vouloir dire que Netanyahou n'est plus là. En ce qui concerne les politiques du nouveau gouvernement, nous estimons qu'il n'y aura aucune différence ou peut-être même qu'elles seront pires, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne dans un communiqué. Les sociétés d'espionnage US israéliennes en coopération avec la coalition saoudo-émirati. Le magazine français Intelligence Online avait fait état de la coopération en matière d'enseignement de deux sociétés américaines avec la coalition d'agression saoudienne au Yémen. Le rapport indique que la société américaine Five Domains, avec l'aide d'anciens membres de la CIA et de l'Agence de sécurité nationale NSA, ont signé un accord avec le gouvernement saoudien pour collecter et analyser des données du renseignement militaire au Yémen. Cet accord est l'un des accords stratégiques du gouvernement saoudien conclu avec les États-Unis. Five Domains s'est associé à l'AITTC depuis qu'il a remporté une offre de vente d'équipements stratégiques à l'Arabie saoudite en décembre dernier et les deux sociétés ont aidé à collecter et à décrire des données militaires importantes pour aider les services de renseignement saoudiens. Les deux sociétés travaillent ensemble pour aider l'agence de renseignement saoudienne à analyser et à interpréter d'importantes données militaires collectées à partir d'images aériennes et satellitaires ou d'individus. Selon la publication Intelligence Online, la plupart de ces agents avaient déjà opéré en Afghanistan, en Irak, et certains comme Michael Kirby ont travaillé dans le domaine du renseignement technique et militaire. Selon des sources sur le terrain au Yémen, la réduction de la coopération a eu un impact significatif sur des frappes aériennes sans succès de la coalition d'agression saoudienne dans la province de Marib. Entre-temps, le porte-parole des forces armées yéménites, le général
le brigade Yahya Sari a déclaré que les forces des comités populaires d'Ansarallah avaient arrêté un espion du Mossad. Nous allons dénoncer bientôt l'ingérence de l'entité sioniste dans les affaires intérieures du Yémen, a-t-il souligné sur Twitter. En Syrie, les habitants de la localité de Jadid Bakarah, dans la banlieue de Deir ez-Zor, manifestent contre les pratiques de la milice des FTS. Les habitants de la localité de Jadid Bakarah, dans la banlieue de Deir ez-Zor, ont manifesté contre les pratiques de la milice des FTS soutenues par les forces de l'occupation américaine, selon l'agence de presse syrienne Sana. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana que des manifestations populaire était sortie dans la localité de Jadid Bakarah, dans la banlieue est du gouvernorat, contre la milice des FTS et avait condamné leurs pratiques criminelles contre les habitants ainsi que l'insécurité, le chaos, le pillage des récoltes et des propriétaires. Les manifestants avaient réclamé l'expulsion des hommes armés de la milice des FTS et l'occupation américaine de cette région. Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.